Toujours sur Mars, la planète rouge en compagnie de Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l'IAS. Comment vont s'organiser dans les années à venir, enfin pratiquement même dans les décennies à venir, les missions d'exploration, sachant cela, c'est-à-dire on considère aujourd'hui que tous les deux ans partent des sondes, soit en orbite autour de la planète, soit des robots pour se poser. Est-ce que la recherche de la vie après la recherche de l'eau va devenir le leitmotiv de l'exploration martienne ?
Il l'est déjà, en fait il n'a jamais cessé de l'être. Quand on regarde depuis Viking, les sondes Viking en 1976, c'est bien ça qu'elles cherchaient. Je dirais qu'après Viking, à cause peut-être de Pathfinder et des premières observations qui montraient en fait que cette planète était essentiellement un astre géologiquement mort et probablement hostile, elle a toujours été, ce qui est en train de se produire, où en fait paradoxalement, on reconstitue une possibilité pour cette planète de peut-être ne pas avoir été hostile très tôt dans son histoire, à l'émergence du vivant, va redonner du crédit à tous ceux qui n'ont jamais perdu espoir, peut-être de ce point de vue-là, que cette planète ait pu à un moment donné être une planète de vie et non pas une planète de mort. Ce qui est en train de se faire change bien sûr d'une part cette conception, mais surtout oriente différemment les recherches, puisque maintenant on s'aperçoit que les endroits où il faudrait aller ne sont pas ceux que l'on pensait avant, mais on les connaît maintenant, on sait où ils sont. Donc la manière dont je vois les choses, mais à nouveau c'est plus compliqué que ça, parce que ce qui fait une mission, c'est des choses très compliquées qui ne sont pas que l'intérêt scientifique au premier ordre. D'autres ingrédients sont là. Mais on peut imaginer malgré tout que dans les 10 prochaines années, ce qui va se faire, si c'est essentiellement basé sur la force des découvertes actuelles, ça va aider à aller dans ces sites que l'on considère maintenant comme les plus intéressants et que la sonde MRO confirme comme telle, poser au moins 2 grandes sondes, qui sont donc la sonde MSL et ExoMars, et peut-être un 3e grand robot américain d'astrobiologie, qui vont donc, disons, de 2009 à 2015 essentiellement, essayer de regarder maintenant à l'échelle microscopique des échantillons dans des endroits bien sélectionnés, jusqu'où a pu aller cette évolution chimique, est-ce qu'a pu aller jusqu'au biochimique. L'étape suivante que l'on essaie de construire maintenant, c'est de se fabriquer les systèmes qui seront capables de rapporter ces échantillons après un tri, si possible intelligent, des meilleurs échantillons, à l'échelle le plus tôt possible. C'est compliqué de revenir automatiquement d'une planète comme Mars. Il faut mettre une fusée à 3 étages à pause, capable de partir toute seule, faire un rendez-vous orbital. Bref, c'est pas simple techniquement, ça coûtera cher. Mais l'enjeu vaut le coup. D'autant plus que peut-être que d'ici là, on va s'apercevoir que la biochimie est une réalité martienne. Donc, la deuxième étape sera effectivement qu'on commence à préparer un retour d'échantillons pour la fin de cette deuxième décennie de ce millénaire, c'est-à-dire 2015-2020. Mais bien sûr, si en même temps on démontre qu'il a pu y avoir, par ce mode dormant, possibilité de maintenance de cette forme de vie extraterrestre, alors on peut concevoir que le plus efficace après, et que ça pourrait être réellement une grande aventure de l'humanité des 50 prochaines années, ça serait d'aller à la rencontre d'une vie extraterrestre encore peut-être en opération. Ça pourrait justifier même d'équipages humains. Et actuellement, toutes les grandes agences spatiales, aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Chine, au Japon et bien sûr en Russie, envisagent réellement de contribuer à une grande aventure de ce type-là, dans un cadre qui pourrait être typiquement 2030-2050. Bien sûr, les motifs ne sont pas que d'ordre scientifique. Mais si la science contribue à cela, avec cette histoire d'émergence du vivant, alors je pense que ça pourrait être réellement une aventure dont on voudra qu'elle ait lieu.
Mais comment pourrait-on découvrir avant que la biochimie est une réalité martienne ? Est-ce que vous parlez de là, par exemple, de l'observation de méthane dans l'atmosphère de la planète ?
Non, je ne pense... Le méthane sera vraisemblablement jamais un traceur non ambigu du fait qu'il y a de la vie, en tout cas aujourd'hui. Parce qu'il y a de multiples autres possibilités de fabriquer du méthane. Non, je pense que la chose la plus importante est de démontrer que certaines des structures que l'on verra dans des échantillons qu'on rapportera sont des structures vivantes, qui ne sont pas des structures de contamination terrestre, mais de structures réellement de biochimie extraterrestre. Et ça, je pense que s'il a pu y avoir sur certains grains argileux, probablement les ions des carbonates, certaines des macromolécules d'origine sur Mars qui se sont structurées en biomolécules, même si elles ont disparu comme telles et qu'elles ont formé des molécules, des fragments de molécules polymérisées, fossilisées, on sera capable aujourd'hui dans 10 ans de démontrer qu'effectivement on a devant nous ce qu'on pourra appeler un microfossile martien. Donc je pense que la découverte de fossiles extraterrestres d'une manière non ambiguë est à l'horizon réellement des 15 prochaines années.
Dans ce contexte-là, comment s'inscrit une mission comme la mission Grund annoncée par les Russes d'aller explorer Phobos et en quoi l'exploration d'une petite lune de Mars donne des informations sur la planète, son environnement et ce qu'on trouve à la surface?
Je ne pense pas que Phobos Grund soit une mission qui ait un caractère d'exobiologie fort. C'est-à-dire que le retour d'un échantillon de Phobos va certainement nous renseigner sur ce que sont les astéroïdes, sur ce qu'est un astéroïde de type C. On va probablement trouver de la matière organique là-dedans, je le pense. Ça ne sera pas très différent de la matière organique que l'on trouve dans les météorites carbonées qui proviennent de corps parents très semblables à ce que sont probablement ces petits corps capturés que sont Phobos et Deimos. En revanche, Phobos Grund nous renseignera technologiquement sur la capacité qu'on a fabriqué quelque chose qui peut repartir simplement d'un engin sur lequel on s'est posé. Il y a déjà eu ça dans le passé, sur la Lune. Arriver à envoyer un système se posant sur une Lune martienne pour repartir, c'est déjà très bon. Cela dit, il faudra faire plus fort. Partir de Mars, encore une fois, avec la gravité martienne, Phobos Grund sera très loin des conditions semblables. Il n'y aura pas de rendez-vous orbital, il n'y aura rien de ce qui sera nécessaire pour repartir de Mars. Donc je pense que Phobos Grund est une mission importante. Je dirais qu'elle est surtout très importante parce qu'elle va signer le retour de la Russie dans l'exploration planétaire, tout simplement. Et en soi, c'est déjà très fort. Mais je pense que pour l'exobiologie, ça ne va pas nous renseigner énormément par rapport à ce que vont nous faire les robots qui, en même temps, à la surface de Mars, vont explorer cette planète, c'est-à-dire MSL et ExoMars.
Je voudrais conclure par deux questions. La première concerne Mars Express. Mars Express, c'est la première mission européenne à destination de la planète rouge, la première à se mettre en orbite autour d'une planète. Petite mission, petit budget, grand résultat. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que c'est un indice que on peut faire à côté des États-Unis de la science de façon efficace et à des coûts nettement différents?
Beaucoup de questions en une. Le résultat montre que oui, on peut faire des résultats, on peut faire une mission très importante avec des résultats très importants sans toujours mettre des très gros budgets. Ce qui ne veut pas dire que les missions à gros budget sont toujours mal employées. Poser quelque chose à la surface de Mars en particulier, comme le font actuellement les Américains avec les deux rovers, ce sont des missions qui nécessairement coûtent très cher quand on voit les difficultés et la fiabilité à mettre en place. Mars Express est une mission qui n'avait pas cette ambition puisqu'elle voulait simplement mettre en orbite des instruments qui avaient été développés dans un autre cadre, ceux de la mission Mars 96 soviétique devenue russe. Ça coûte de fait moins cher et à nouveau, il y avait un champ très fort de découverte que Mars Express a couvert. Les étapes suivantes nécessairement verront un couplage entre ce qu'on fait en orbite et ce que l'on fait au sol. Donc ce sera nécessairement des opérations beaucoup plus coûteuses qu'elle était Mars Express, et c'est une véritable question de savoir si l'Europe va continuer cette exploration. Vous savez qu'en Europe, il y a deux manières de faire de la science. La première manière, c'est de faire de la science dans le cadre de ce qu'on appelle le programme scientifique, programme qui relève de ce qu'on appelle le programme obligatoire, où des structures de l'Agence spatiale européenne décident d'un programme équilibré entre toutes les disciplines. Je crois qu'il est à peu près acquis que, malheureusement, dans ce cadre-là, il n'y aura plus d'exploration martienne. L'équilibre qui se fait actuellement entre, d'une part, l'exploration planétaire et les autres intérêts astronomiques en général, et à l'intérieur du monde planétaire lui-même, font que Mars ne sera plus un objectif privilégié. La plupart des comités concernés considèrent qu'avec Mars Express actuellement en orbite, Vénus Express qui tourne aussi, Bepi Colombo qui se prépare à aller vers Mercure, cette discipline est déjà couverte.
C'est pas une erreur pour le grand public, ça, pour l'enthousiasme?
Je crois que c'est une grande erreur, mais c'est extrêmement difficile d'aller contre ce mouvement quand on connaît un petit peu de l'intérieur ce qu'est le processus et les structures de l'Agence spatiale européenne. Et c'est pourquoi il y a un autre programme de l'Agence spatiale européenne qui, lui, ne relève pas du programme obligatoire. C'est ce qu'on appelle le programme facultatif. C'est un programme où des missions peuvent avoir lieu si certains pays décident, indépendamment de ce qu'ils mettent dans le programme obligatoire, de mettre de l'argent pour que tel ou tel objectif ait lieu. C'est ce qui s'est fait, par exemple, pour les lanceurs. Ariane est née de la volonté, en particulier de la France, d'investir beaucoup dans cette orientation, obtenir que l'Europe ait une autonomie pour les lanceurs. Et bien, dans ce programme-là, programme donc non obligatoire mais facultatif, la grande opération, c'est l'homme dans l'espace, qui est la contribution de l'Europe actuellement à la station orbitale internationale. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pendant et après. Et un grand programme est né qui s'appelle le programme Exploration, dans cette division-là. Et ce programme Exploration vise essentiellement à préparer, dans la suite de ce que l'on fait avec l'homme dans l'espace, des équipages qui iraient vers Mars précisément. Et la question est venue de savoir si, dans ce cadre-là, la préparation des équipages sur Mars ne serait pas de mettre sur pied un programme robotique d'exploration de Mars. Et donc, ce qui est tenté actuellement, mais quand je dis tenté, c'est vraiment cela, il n'est pas sûr que ça marche, parce que c'est un cadre tout autre, de voir si dans ce cadre-là, qui est géré donc par le fait que certains pays mettent de l'argent pour voir aboutir des projets qu'ils ont à cœur, qui sont essentiellement des projets gérés par des retours industriels, est-ce qu'il y a de la place pour une exploration robotique martienne auquel les scientifiques trouveraient, ou dans lequel les scientifiques trouveraient leur compte ?
Sans passer par la Lune.
Bien, la première épreuve, la première étape, qui s'appelle ExoMars, c'est une étape qui a déjà été décidée par les ministres lors de la dernière conférence ministérielle fin 2005. Cette mission est une mission robotique qui vise précisément, à l'époque ça devait être en 2009 puis en 2011, elle vient d'être repoussée en 2013, à poser à la surface de Mars un système, en particulier avec un rover, un engin mobile, qui devrait faire de l'exobiologie dans la suite de ce qui se fait actuellement. Cette mission a des difficultés à être mise en place. Si elle voit le jour, ça veut dire qu'effectivement l'Europe aura trouvé le moyen, dans le prolongement de Mars Express, mais dans un autre cadre, de prolonger l'exploration de Mars, mais à nouveau sur des mobiles qui ne seront pas purement scientifiques, mais qui sont aussi technologiques, industriels, et qui sont essentiellement drainés par la perspective d'envoyer l'homme un jour sur Mars. C'est dans ce cadre-là qu'on essaye déjà de penser à l'après-ExoMars. Et on prépare de ce point de vue-là la prochaine conférence ministérielle, puisqu'à ce moment-là, dans ce cadre-là, ce sont les ministres européens qui, se réunissant tous les 3-4 ans, décident de tel ou tel programme. On essaye de faire en sorte que les ministres qui se réuniront maintenant dans un an et demi décident qu'il doit y avoir un après-ExoMars et cet après-ExoMars doit continuer l'exploration robotique de Mars comme une des étapes importantes à la fois pour comprendre cette planète et pour préparer l'arrivée de l'homme si elle voit le jour à l'horizon des années 30-35.
Dernière question, mais elle est plus adressée aux scientifiques qui travaillent sur Mars depuis de nombreuses années maintenant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surpris, intéressé, enthousiasmé sur l'exploration de cette planète? Vous parliez tout à l'heure de ces signes qui laissaient penser, par exemple, que l'eau avait coulé quand on regardait les vallées, les fausses rivières, etc. Qu'est-ce qui est le plus passionnant, j'allais dire le plus enthousiasmant pour l'œil neuf qui s'interroge sur l'histoire de cette planète?
Je crois que ce qui, en tout cas, m'a vraiment enthousiasmé le plus, c'est de s'apercevoir qu'à travers Mars Express, en particulier à travers notre expérience, ce que l'on trouve ne correspond pas du tout à ce qu'on imaginait trouver. Et je pense qu'une bonne recherche, quelque part, et c'est difficile à dire sans que ce soit mal interprété, une bonne recherche qui se fixe des objectifs va plus déboucher sur des questions que sur des réponses. On s'aperçoit essentiellement que les réponses qu'on apporte ne sont pas celles auxquelles on s'attendait parce que les questions étaient mal posées. Quand on a démarré toute cette exploration, on partait comme tout le monde sur l'idée que cette planète était rouge d'avoir vu de l'eau, que vraisemblablement les torrents que l'on voit dans ces structures attestent du fait qu'il y a eu des systèmes entretenus avec de l'eau. On s'aperçoit que c'est pas ça du tout, que finalement cette planète est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine et que pour autant, alors que tout ce que l'on pensait être des signes de l'eau n'en sont pas, cette planète a pu voir de l'eau et que la question de l'émergence du vivant se pose réellement, mais se pose en d'autres termes. Il y a là, dans le processus même, quelque chose de plus excitant, de s'apercevoir que ça nous permet de rebondir et d'ouvrir des perspectives à l'exploration beaucoup plus fortes. En même temps, ça nous donne à penser que cette clé de la divergence des chemins d'évolution de Mars et de la Terre. Qu'est-ce qui fait que Mars et la Terre, qui ont connu le même passé, ont vu leurs histoires à ce point diverger? Pendant très longtemps, on s'était dit que, par exemple, ce qui a été particularité à la Terre, c'est d'avoir la Lune qui a stabilisé son obliquité, dont le climat était pérenne longtemps. Probablement, c'est vrai, mais c'est peut-être pas ça le plus important. On s'est aperçu que l'existence d'un champ magnétique qui est entretenu très longtemps, pendant beaucoup plus que des dizaines ou des centaines de millions d'années, a peut-être été le facteur dominant qui fait que sur Terre, la vie des marées a pu être entretenue et que peut-être nulle part ailleurs elle a pu l'être. Et que là, on touche à l'un des ingrédients peut-être majeurs de l'exploration planétaire qui va nous renseigner en particulier sur la recherche du vivant ailleurs dans l'univers et sur la recherche des exoplanètes de type habitable. Que veut dire être habitable? C'est pas simplement avoir le bon flux solaire, le bon flux stellaire, c'est d'avoir soi-même, par ses propres ressources, la capacité d'entretenir une activité qui, elle, va nous protéger contre tout ce qu'il y a de létal dans l'univers, et en particulier le rayonnement qui provient de la propre étoile qui vous fait son énergie. Eh bien, ça, c'est dû à des propriétés qu'on n'imaginait pas, qui sont la manière subtile dont la radioactivité en particulier entretient une convection dans le manteau qui elle-même en retour va entretenir une convection dans le noyau qui va ou pas faire un champ magnétique qui va vous protéger contre le rayonnement, etc. Donc voilà, ce qui est le plus excitant, c'est de rebondir à partir de nos découvertes sur des processus tout à fait fondamentaux qui aboutissent à cette idée, je pense, peut-être triviale mais forte, c'est que la Terre est un monde parfaitement unique, a su mettre tous ses ingrédients au point que la suite des événements a conduit où nous en sommes aujourd'hui, mais qu'il a fallu, non pas des réglages fins, mais qu'il a fallu des processus très particuliers qu'on commence à mettre en évidence aujourd'hui pour qu'une machine planétaire arrive à ce chemin d'évolution et que peut-être l'ensemble des autres mondes planétaires ont vu d'autres chemins d'évolution parce que, vu leur taille, vu leur composition, vu leur situation dans le système, elles n'ont pas pu avoir une évolution autre.
Et penser que la vie a pu naître et exister sur Mars, c'est une attitude, encore une fois, de scientifique et pas une attitude de croyance ?
Pas du tout. Je pense que ce que nous cherchons à démontrer, ce n'est pas que la vie a ou n'a pas démontré. Je dirais qu'on recherche les conditions qui font que sur Terre ça a pu marcher pour essayer de comprendre si ces conditions sont très génériques ou elles ont besoin d'ingrédients extraordinairement subtils qui font que, compte tenu du nombre de cas possibles, eh ben, il n'y a peut-être pas assez de planètes dans notre galaxie pour qu'il y ait deux planètes semblables et ça ne serait pas plus grave. N'oublions pas qu'il n'y a pas plus d'étoiles dans la galaxie que d'hommes sur cette planète. C'est à peu près le même ordre de grandeur, quelques milliards. Et on sait bien qu'on est tous différents parce que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes entre eux est incommensurablement plus grand que des milliards. La vraie question est de savoir, est-ce que c'est un processus qui nécessairement va y arriver parce qu'il faut peu d'ingrédients et que tout atome devient une molécule, toute molécule donne une chimie qui va devenir une biochimie, ou est-ce qu'il faut des conditions très particulières comme par exemple l'entretien d'un noyau convectif qui va faire que le champ magnétique à un moment donné soit là ou ne soit pas là. Je pense qu'effectivement cette recherche du vivant est tout à fait fondamentale parce que l'on démontre ou que l'on ne démontre pas que le vivant existait ailleurs, c'est presque aussi important. Et je dirais que démontrer que la Terre est à ce point unique est aussi important que démontrer que la Terre est totalement banale. Et je dirais qu'actuellement, ce vers quoi on tend, c'est de montrer à ce point que la Terre est d'une spécificité remarquable avec cette idée que, bien sûr, il faut faire avec et qu'en plus, il faut faire très vite.
Merci Jean-Pierre Bibring, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain épisode.